ça c'est la phrase que j'ai toujours dans la tête, c'est on essaie de connaître le loup et on en apprend sur l'homme. J'apprends, quand je suis avec eux, j'ai l'impression d'être complètement vivant, quoi. C'est-à-dire que c'est comme un rêve de gosse.
CO2, mon amour.
Si on m'avait dit il y a 20 ans que j'aurais l'occasion de côtoyer comme ça une meute, ici, dans mes montagnes à moi, ça aurait été... Enfin, j'aurais même pas osé y croire.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est au de mon amour parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement. Et même si dans les signes du zodiaque il n'y a pas de loup, on vous souhaite une très bonne après-midi avec Hélène Langlois et Alain Gadan à la technique et assisté de Claire Destacan. Sans oublier Albert Houck, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors, les plus fidèles le savent, donc assez haut de mon amour, nous adorons les feuilletons. Et il y en a notamment trois que nous suivons avec assiduité. La ferme des mille vaches, le PR de Flamanville et le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On va s'arrêter sur le troisième, hein, parce que c'est dans l'actualité. Samedi dernier, le périphérique de Nantes était bloqué, vous le savez, par les opposants au projet, montrant, s'il était besoin, que leur détermination restait intacte. Bon, faut dire que dans le camp adverse, on ne mollit pas non plus, puisque ce mardi... Vinci, déguisé en avocat général, traînait devant le tribunal afin d'obtenir leur expulsion les agriculteurs et les familles habitant encore sur place. Bon, comme c'est une petite PME, Vinci dans le besoin, une astreinte journalière de 200 à 1000 euros ainsi qu'une mise sous séquestre des biens et des cheptels sont réclamés. Au cas où ces vilains citoyens opposés au progrès, à l'urbanisation, au commerce ne déguerpiraient pas. Au passage, on notera que Vinci n'a jamais entendu parler de la notion de trêve hivernale. Bon, faut dire que cet aspect-là du dossier est sûrement un peu technique et puis fait de la faute à l'hiver, hein. L'hiver il pointe seulement le bout de son nez, donc peut y avoir méprise. Parallèlement, le collectif des naturalistes en lutte a découvert sur le site 5 espèces rares théoriquement protégées qui jusqu'à présent n'avaient pas été répertoriées. Bon, rien d'étonnant à cela puisque les inventaires précédents diligentés par les rapports, par les porteurs du projet et un cabinet spécialisé ont été un petit peu bâclés. Alors ces petites plantes débusquées seront-elles en mesure de freiner l'éclosion de la tour de contrôle, chlorophylle contre kérosène, d'emblée la lutte paraît un tout petit peu inégale. Et pourtant, les voix continuent de s'élever pour appeler un peu plus de cohérence, notamment dans le prolongement de la COP21. Notre économie doit songer à se décarboner si elle ne souhaite pas finir carbonisée. Alors les lettres ouvertes se multiplient à mesure que les pouvoirs locaux, nationaux se ferment davantage aux arguments des opposants donc au projet. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que la semaine de l'autisme c'est toute l'année, un peu sur ce thème-là, qui n'est pas simple, d'accord, mais quand même. Et puis, bah c'est vrai qu'il y a eu un... Ça n'a pas été simple pour la ministre de l'écologie, parce que lors de ses vœux cette semaine, eh ben on l'a interrogée sur ce thème-là et elle a eu recours à un silence à peu près aussi assourdissant que le décollage d'un Airbus 330. Bon, faut dire qu'elle a jamais été pour ce projet, contrairement aux deux premiers ministres du gouvernement Hollande. Et alors, que dire plus tard aux générations futures dont on se fiche en grande partie, mais que ce projet indispensable était dans l'intérêt général, hein, avec une surface commerciale aussi grande que les halls de départ et d'arrivée. Et plus tard, les enfants remercieront les politiques et les actionnaires de Vinci d'avoir un peu plus saturé le ciel en accélérant le réchauffement climatique et en détruisant les sols, clés de résilience de ce fameux dérèglement du climat. Mais non, du réalisme, coco, avant toute chose, et si possible du réalisme à court terme, c'est encore mieux. Alors après l'audience de mardi au tribunal de Nantes, le juge a mis sa décision concernant les expulsions en délibéré au 25 janvier prochain. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages va être examinée au Sénat à partir du 19 janvier la semaine prochaine. Notre-Dame-des-Landes ne sera sans doute pas évoquée, hein. Le feuilleton donc continue. Et puis nous, on a un tout petit peu hésité, si vous voulez, pour venir à l'émission. On a hésité entre prendre une Volkswagen ou bien une Renault. Mais moi, je peux juste suggérer, si vous voulez, un nom pour leur prochain modèle, la Pinocchio, parce qu'elle a le nez, non pardon, elle a le capot qui s'allonge. Ah là 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 là, je suis revenu en 1992 sur cette belle terre de France, tout seul et non pas parachuté, comme parfois on peut le dire. Non, pas du tout. Moi, je suis un joli loup. Bah oui, je trouve pas mal la France. Évidemment, je joue avec les brebis. Ça, faut bien reconnaître que de temps en temps, c'est pas terrible. Et puis historiquement et culturellement, j'arrive dans une terre où pendant des années, des dizaines d'années, il y avait plus de loups. Alors c'est compliqué. Donc on est en France. Donc la France, c'est un pays très manichéen. Vous voyez, il y a les bons, il y a les mauvais. c'est on, c'est off, et de ce côté-là, bah, on a toujours un petit peu de mal à s'en sortir. Et c'est bien pour ça qu'il y a donc une manifestation actuellement sur la place Bellecour à Lyon. Nous allons retrouver notre ami Alain Bougrain-Dubourg. Cher Alain, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors Alain, vous êtes pas tout seul, hein. Il y a Paul Watson, il y a Yves Pacalet, il y a Fabrice Nicolino autour de vous, et puis j'imagine quand même pas mal de monde sur la place Bellecour.
Ah oui, qui arrive par dizaines, par centaines, et je dois dire que c'est assez émouvant parce qu'il y a peu de manifestations qui agrègent comme ça toutes les bonnes volontés visant à préserver le vivant qui nous entoure, et aujourd'hui il s'agit du loup plus singulièrement.
Alors pourquoi vous avez effectivement souhaité donc réagir, parce qu'évidemment il y a des battues qui sont organisées.
Oui.
Et là on estime, hein, selon l'INSEE, qu'on dit qu'il y a à peu près 300 loups à peu près en France. Je dis bien à peu près, hein, parce que certains vont vous dire il y en a 400.
Ah oui, non, c'est défendu, hein. Il y en a 282 estimés actuellement, alors qu'ils étaient plus de 300 effectivement l'année dernière, et c'est tout le problème, parce que non seulement il y a de moins en moins de loups maintenant, mais surtout on veut augmenter la capacité de les tirer, c'est-à-dire que on a admis 36 loups, ou plus exactement c'est l'État qui l'a imposé, et un arrêté viserait à rajouter encore 6 loups de plus. Alors on se rend compte dans cette affaire que le loup, finalement, il devient la bête du Gévaudan, il devient l'animal à abattre. Et ici, nous, sur la place Bellecour, actuellement, nous ne sommes pas opposés aux bergers. Bien sûr, beaucoup d'associations de protection de la nature travaillent avec eux, mais on souhaite une cohabitation avec le loup, comme du reste de nombreux bergers le souhaitent, qui se comportent de manière responsable en préservant, en protégeant leurs troupeaux. Mais on voit des troupeaux qui ne sont pas protégés.
Oui.
On voit de l'argent qui est dépensé sans qu'on développe des mesures de protection. Il y a par exemple un truc, Denis, que vous connaissez peut-être pas, qui est le Fox Light. Vous connaissez ?
Pas du tout. Je s'imagine que ça va être une marque de chien, ça peut.
Voilà,
être,
ça va vous éclairer.
Oui.
Ça marche très très bien en Australie contre les dingos, en Afrique contre les lions, parfois même contre les éléphants. Il s'agit tout simplement de gyrophares, on va dire, qui se mettent en route dès que il y a l'approche d'une source de chaleur, et ça marche très très bien. Donc ça a été testé en France, mais on ne le développe pas. En revanche, on dépense de l'argent pour tuer davantage. Et ce qui nous plaît pas, c'est que on peut comprendre que on abatte des animaux qui posent un véritable problème et qui se fixent sur des troupeaux. On peut le comprendre. Mais établir un quota et en se disant on va dézinguer un maximum et comme ça on va régler le problème, c'est tout simplement ridicule.
Ça, c'est une réponse, on va dire, qui est assez politique. Alors c'est vrai que l'année 2015, faut le dire, 8935 brebis donc ont subi des attaques mortelles. Il y en a eu un petit peu plus qu'en 2014, c'est absolument incontestable. Mais on va remettre ça un tout petit peu en perspective. Ce qui ne retire rien, si vous voulez, au problème que peuvent subir évidemment les bergers. On est d'accord, Alain.
Mais évidemment.
7 millions et demi d'ovins en France. On en a entre 40 et 50 000 qui meurent. Voilà, 40 secondes qui meurent. Alors, évidemment, après, il y a quand même ces 8935 brebis, ça c'est certain.
Oui.
Mais voilà, donc oui. Juste pour remettre un peu les proportions.
Sûr. C'est ça la réalité, parce qu'on a vraiment l'impression que le loup est le grand responsable de la diminution des troupeaux, on va dire, et de la problématique liée aux bergers, alors qu'en vérité, la profession de berger tellement respectable, elle est affectée de façon dramatique par la mondialisation.
Mmh.
Dès lors qu'on a ouvert les portes aux carcasses de brebis issues de Nouvelle-Zélande, les bergers français étaient foutus.
Et
vous pourrez tuer tous les loups, les ours, les lynx que vous voulez, la réalité restera celle-là.
Et on va dire d'ailleurs, juste un petit rappel, mais vous le savez, oui. Voilà, c'est que on l'a déjà dit dans cette émission, c'est que justement, si on a aussi ouvert les portes à l'agneau néo-zélandais il y a donc une dizaine d'années, ça a été suite aussi au Rainbow Warrior, c'est-à-dire qu'il a fallu compenser, une espèce de dommage aussi, donc à ce qui s'était passé sur le Rainbow Warrior.
Oui, renouer diplomatiquement avec la Nouvelle-Zélande. Alors, on a eu cette idée. Bah, résultat, ça a affecté directement le pastoralisme français. Je voudrais quand même ajouter que s'il y a moins de 200 loups en France, il y en a 1500 en Italie, il y en a plus de 2000 en Espagne. Et là-bas, il y a aussi des problèmes, il faut pas le nier. Mais on arrive à initier une forme de cohabitation. Et enfin, Denis, vous l'avez dit il y a un instant, la semaine prochaine, c'est la loi en première lecture au Sénat sur la biodiversité. Quand je pense que alors que nous vivons la COP21, la loi biodiversité, qui est une loi historique, 40 ans après la première loi historique de 76 sur la protection de la nature, eh bien, la ministre de l'Environnement souhaite déclasser le loup des espèces protégées. Ça n'est pas concevable. D'un côté, vous avez un discours admirable au plus haut niveau de l'État, disant que la France doit se montrer exemplaire en termes de biodiversité.
Et sur le terrain.
Et de l'autre, voilà. Sur le terrain, vous voyez qu'on veut dézinguer les bouquetins à bargies, que les vautours deviennent de redoutables prédateurs.
C'est notre rapport avec le vivant, avec le sauvage, effectivement, qui est derrière. Alors, cher Alain, je pense qu'on va vous retrouver aussi demain matin à 7h55 avec l'ami Patricia Martin dans Curieux de Nature. Voilà, et puis vous ferez un petit point là-dessus. Un grand merci, Alain. Et puis en tout cas,
merci infiniment.
Belle manifestation
à tous.
Merci
pour tout ce que vous faites, Denis.
Bon, je vous en prie. Et puis à très vite.
Bye.
Ce soir, nous nous battons pour rien, rien d'autre que pour nos poings. On glisse ensemble sur les trottoirs. Nous irons tomber plus tard. Et je te porte sur mon dos. Je te porte sur mon dos.
Je tends tes os.
Et je te porte sur mon dos. Je te porte sur mon dos.
Je casse le tableau.
Tu as embrassé ta mère sur le front. Jamais avant midi, dans nos sacs les walkie-talkie, tu abordes ton père dans son lit. Je te porte sur mon dos, je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os. Je te porte sur mon dos. Je porte sur mon dos le contact de ta peau.
Le contact de ta peau.
Avec nos lampes torches dans la nuit, la fréquence des walkie-talkies. On se suit. Ce soir, nous nous battons pour rien. D'autres que pour nos poings. Les coups qu'on prend, on les rendra. Les coups qu'on prend, on les rendra. Je te porte sur mon dos. Je te porte sur mon dos. Je peux sentir tes os. Je te porte sur mon dos.
Je te porte sur mon dos sur France Inter, juste faire attention aux cervicales. C'était donc Raphaël, dans CO2, mon amour. Et alors, une autre façon de parler du loup, donc après Alain Bougrain-Dubourg, donc sur la place Bellecour pour cette manifestation, ça va être un reportage tout de suite dans les Hautes-Alpes avec Jean-Michel Bertrand qui est un cinéaste.
La balade de Denis Chissou.
Alors là, c'est un début de nuit fabuleux, hein, cette voie lactée avec une floraison d'étoiles sur le dévoluy. Avec vous, Jean-Michel Bertrand. J'allais dire, comment allez-vous et comment vont les loups?
Les loups vont plutôt pas mal. Les loups vont plutôt bien. Là, entre le Champsaur et le dévoluy, justement, avec cette voie lactée qui fait la transition. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. On en fait partie, on est dedans.
Et alors on a donc ces loups qui sont pas très loin, parce que vous en tant que cinéaste, eh bien vous êtes en train de réaliser un film avec vraiment un travail de très grande patience. Vous avez été imprégné par les loups vous ont aussi imprégné, donc en fait vous connaissent quoi.
Au début je les voyais pas, je voyais absolument rien, je me demandais un peu ce que je faisais là. Et quand j'ai commencé à voir les loups, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait le travail, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que c'est eux m'avaient complètement capté, et de par la façon, ma façon de fonctionner, ils ont compris que il n'y avait pas grand danger. Donc je fais partie un petit peu du paysage, on va dire.
Alors je souhaitais en fait retrouver cet homme, je vous avais déjà diffusé un reportage avec lui, mais là nous étions évidemment au mois de février en pleine neige avec Jean-Michel Bertrand, donc qui est cinéaste. On lui doit entre autres Vertige, une rencontre, là avec les aigles. Et puis c'est l'homme qui murmure à l'oreille des loups. Alors nous sommes dans le Dévoluy, nous sommes dans les Hautes-Alpes, le soir vous l'avez compris. Pas très loin du col du Noyer si vous connaissez, le plateau de Bure n'est pas loin non plus. Vous avez une lune argentée qui joue avec un petit torrent là qui s'ébroue. Et puis on n'est pas loin du monde minéral mais quand même 150 mètres en dessous. Et on est en lisière de forêt, voilà. Et nous sommes en fait là où le réalisateur a bivouaqué pendant plus de 2 ans. Pour filmer de vrais loups sauvages, hein, pas des loups imprégnés ou apprivoisés par l'homme. Et donc c'est ce joli travail de patience, de sensibilité, je vais presque dire de philosophie aussi, parce que on médite et on réfléchit pas mal sur sa place, sur celle des animaux, hein, on l'a bien compris que c'était tout à fait conflictuel. Donc on va aller à la rencontre de ces quelques-uns de ces 300 loups qui à la fois, bah oui, mais vous allez voir que Jean-Michel Bertrand donc est très très sain et très lucide sur cette relation entre loup et l'homme et le berger. Là, vous m'amenez sur ce qu'on appelle, alors c'est un lieu de rendez-vous, comment ça s'appelle exactement ça?
Alors ça s'appelle le site de rendez-vous.
Ah, le site de rendez-vous.
Ça, c'est accéder à cet endroit-là, c'est avoir l'assurance de voir des loups tous les jours pendant 3 mois. C'est là que la meute emmène les louveteaux une fois qu'ils sont capables de marcher et de moins téter, de manger la viande régurgitée et après la viande carnée elle-même.
C'est-à-dire qu'en fait c'est une espèce de sas avant qu'ils ne partent.
Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la tanière,
ouais.
C'est-à-dire que au mois de mai la femelle met bas dans une tanière. Les louveteaux vont passer 2 mois dans la tanière. Alors là, ils vont téter au début, et puis la femelle va leur amener de la viande régurgitée. Et au bout de 2 mois, quand ils sont sur leurs petites pattes, capables de faire quelques kilomètres, tout le monde va partir de la tanière pour aller dans cet endroit secret qui est le site de rendez-vous. Et en fait, le site de rendez-vous, c'est l'endroit où les louveteaux vont rester parce qu'ils sont pas capables de suivre la meute sur des chasses et sur les kilomètres qu'ils peuvent parcourir en nuit.
Donc ils vont se renforcer les uns avec
les
autres.
Donc ils vont être sur
cet endroit. Mais tous les ados ensemble, quoi.
Voilà, tous les petits sont sur cet endroit. Et ils vont être au début surveillés par un adulte.
Ouais.
Après, ils vont être plutôt livrés eux-mêmes. Ils vont rester sur... Et c'est un secteur qui fait... on va dire un demi-hectare. Alors le lieu, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez la beauté, l'harmonie du chaos, j'allais dire, parce que c'est un véritable chaos, en fait, de roches qui descendent donc de la montagne et qui arrive à la limite
de la forêt,
voilà, c'est-à-dire la zone de combat, comme on l'appelle.
Et on va juste rappeler que la zone de combat, c'est justement la fin de la forêt et qui combat avec le monde minéral.
Voilà, c'est ça, c'est les derniers arbres qui combattent pour survivre face au monde minéral. Et en fait, le site de rendez-vous est à l'intérieur de la forêt, à quelques centaines de mètres. Et au début, on voit pas les louveteaux, on les entend crier quand les adultes arrivent, qu'ils les nourrissent et tout ça, on ne les voit pas. Et puis au bout de 15 jours, c'est-à-dire à la mi-août, ben les louveteaux, ils commencent à être un petit peu plus aguerris et puis à faire des explorations et à sortir de la forêt. Ouais. Et quand je disais tout à l'heure que c'est la certitude de voir des loups tout le temps, ben c'est qu'après, tous les soirs, tous les matins, on voit les louveteaux qui arrivent, qui jouent, qui explorent. Quand on sait qu'on a affaire à des loups sauvages et qui sont là comme il y a des milliers ou des millions d'années. Moi, je trouve ça, moi, ça me touche terriblement de voir ces louveteaux jouer, de voir les adultes qui sont besogneux toujours à leur amener à manger, à les surveiller. Et puis après, il y a la période aussi qui est fascinante, c'est début du mois de septembre. Une jeune louve de l'année précédente qui est restée dans la meute et qui apprend aux louveteaux à ritualiser. C'est-à-dire qu'il leur apprend à se battre sans se mordre, sans se faire mal, etc. Là, on comprend tout le fonctionnement social et rituel de l'animal et aussi toute sa finesse. Et donc, voilà, c'est le cadeau du ciel. Le site de rendez-vous, c'est le Graal.
Parlons du cadre. On est dans le dévolu. Donc c'est un massif karstique. On en a le, allez, on va dire qu'on a le plateau de Bure qui est pas très très loin. On va pas en dire plus de toute façon. À quoi ça ressemble? Donc c'est vrai qu'il y a une harmonie folle, quoi. Et en pleine journée, vous avez la lumière qui joue sur les différentes parois. On entend d'ailleurs là ce ruisseau. C'est important aussi pour le rendez-vous parce qu'il faut, il faut boire. Donc
ben oui, le site de rendez-vous est complètement lié évidemment à l'eau parce que ben comme la tanière d'ailleurs, il faut aussi au moment où la femelle est à la tanière qu'elle puisse se désaltérer quand elle veut et qu'elle fasse pas des kilomètres pour ça. Et donc là sur le site de rendez-vous, il y a évidemment ce ruisseau qui passe et qui permet au louveteau de se désaltérer. Et au niveau de la je sais pas, moi je trouve ce que je dis toujours, c'est que c'est complètement épuré et graphique. Cette limite justement entre le champ de sort et le dévolu, avec justement un côté beaucoup plus bocage, plus vert côté champ de sort, et minéral après évidemment sur les sommets, et beaucoup plus dénudé, beaucoup plus minéral sur le dévolu. Donc on a déjà, entre ces deux vallées, on a déjà un contraste incroyable, et ce qui fait la richesse de nos paysages, quoi, c'est fou.
Ce qui est toujours merveilleux, c'est de se dire qu'évidemment que ces loups nous ont repérés depuis un certain temps, vous bien sûr. Bon, moi je suis arrivé, je vais pas aller voir de toute façon parce qu'ils en ont pas envie, ils ont bien raison. Ils sentent quand même qui peut être un ennemi potentiel ou bien qui peut être toléré, comme c'est votre cas.
Ben, je crois que évidemment là le temps a joué en ma faveur, c'est-à-dire que on vient pas là une semaine et puis on s'en va. Donc ça fait 2 ans que ça dure maintenant cette aventure. Il y en a encore pour 1 an. Ce qui se passe et ce qui me paraît essentiel, en tout cas c'est ma façon de tout fonctionner, c'est de jamais les surprendre. C'est-à-dire que je circule sur mes chemins à moi, qui sont souvent hors sentier, on va dire, hein, parce que là, vous avez vu, pour venir, c'est pas toujours facile. Il y a les ravins à passer, on n'est pas sur des chemins, mais c'est mes chemins à moi, mes sentes à moi, aux heures qui sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire au plein cœur de la journée, entre 11h du matin et 3h de l'après-midi, et toujours dormir sur place. Et du coup, les loups ne sont pas surpris. Et je crois que le pire, c'est de les surprendre. Alors là, si on les surprend, on crée de la méfiance. Et le fait que les loups puissent suivre ce que je fais sans être surpris, je pense que c'est la clé. Alors, je ne le savais pas vraiment au départ. C'était un peu comme un instinct. J'avais pas envie de naviguer en même temps qu'eux. Je me sentais vraiment un intrus. Je me suis dit, si je tombe nez à nez avec un loup, ben, je vais être content, je vais voir un loup, mais je vais voir un loup en train de fuir, ça rime à quoi? C'est naze. Donc à ce moment-là, moi ce qui m'a intéressé, c'est de partager leur intimité. Alors il n'y a pas un vrai partage, mais au moins que je n'entre pas en interférence et que je ne les dérange pas. Hier matin, je suis reparti du bivouac et j'ai trouvé ça fabuleux. Il y avait des chamois qui étaient là, devant, parce que alors... Quand on est voilà, avec les loups, évidemment, il y a tous les ongulés autour. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les chamois étaient là. Et j'ai réussi à partir sans que les chamois ne lèvent la tête, sans leur faire peur. Et bien moi, la journée était gagnée. Voilà, moi j'ai envie de ça. J'ai envie de pas interférer. Et j'essaie d'organiser mes bivouacs, les endroits sous lesquels, les arbres sous lesquels je dors, etc. en fonction de ça.
Pas la fin du voyage, non, avec Jean-Michel Bertrand, on va le retrouver d'ici quelques minutes. Tenez, si je vous dis un loup avec une trompette, non, pas possible, mais un louis avec une trompette, oui.
France Inter, CO2 Mon Amour, avec Denis Chesson.
It was just one of those things, just one of those craziest flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things.
Suite du Grand Air qui rime avec France Inter dans C'est au-deux mon amour, donc cette page nature pour parler des loups un petit peu différemment dans les Hautes-Alpes, dans le Dévoluy, avec Jean-Michel Bertrand, donc ce cinéaste. Alors d'un côté vous avez ceux de certains éleveurs, je dis pas tous mais vraiment certains, hein, voilà, et chasseurs qui veulent transformer le loup en lasagne, je sais pas quel goût ça a d'ailleurs, et puis ceux qui agrandissent le rêve avec le cinéaste Jean-Michel Bertrand. Jean-Michel Bertrand, la nuit nous a presque complètement envahis, mais c'est vrai qu'on a ces milliers d'étoiles. Je sais qu'à l'œil nu, on doit être capable d'en dénombrer un être humain puisqu'on n'est pas agressé par des pollutions lumineuses, hein, ici dans ces Hautes-Alpes. On dénombrer 3-4 000, c'est ce que l'on dit quoi, en général. Et puis donc on a ces loups, on va peut-être pas les entendre complètement chanter ce soir. Hein.
Il y avait des petits cris l'autre jour, j'ai entendu justement en fait les petits, pour l'instant ils couinent un petit peu, ils jappent, ils grognent, et quand les adultes amènent de la nourriture. Et là, ça commençait à grogner un petit peu dans le bois, et moi j'ai eu l'occasion de les entendre hurler une fois l'année dernière, au mois de septembre, et alors là ça a été une folie, c'était les adultes qui arrivaient à 2h du matin, certainement avec de la nourriture. Les petits se sont mis à japper, mais à commencer à hurler, parce qu'ils commencent en septembre, octobre, là, ils commencent à être un peu plus grands. Et tout le monde s'est mis à chanter en même temps. Et je crois que ça a été un des moments les plus fous de mes bivouacs. Quand on a la chance de vivre des choses comme ça, quand on a la chance d'habiter dans un département comme ça où la nature est restée sauvage et préservée, et quand on a les loups ici, ça veut dire aussi que
le territoire est sain.
Que le territoire est sain, c'est-à-dire que c'est un bon marqueur. Aujourd'hui, tout se réchauffe, tout fout le camp, tout le monde est dans une espèce de stress par rapport à des problématiques qui sont bien réelles, malheureusement. Et quand on a la chance d'avoir justement des marqueurs comme ça positifs, je crois qu'il faut se rendre compte à quel point c'est important. En tout cas, il faut savoir la planète qu'on veut.
Juste pas loin, derrière un haut de vallon, il y a un berger assez étonnant qui s'appelle Mathias,
Je vais pas faire de jeu de mots parce que c'est, il est allemand, donc on peut dire que c'est un berger allemand.
Voilà.
C'est fait. Et donc, il y a quand même des sacrés molosses, quoi. Là, il a des patous. Alors lui, il a 1200 brebis. Il a aucun emmerdement.
Ouais, c'est un truc étonnant.
Ah oui, c'est étonnant.
C'est vraiment un personnage étonnant, Mathias, avec 5 patous à lui, qui sont dressés, 3 chiens de berger, donc, pour mener le troupeau, donc 8 chiens en tout, des patous qui sont monstrueux, qui vous terrorisent, franchement, quand vous approchez, ils vous terrorisent, mais alors il fait clac, et hop, les patous s'arrêtent. Et en plus, ce qui est fabuleux, c'est qu'il a dressé ses patous à ne pas manger de marmotte.
Ah, bien ça.
Donc le gars, il va au bout, il est étonnant, quoi. Alors lui, c'est pas du tout quelqu'un, évidemment, qui est ni pour ni contre le loup. Il est très pragmatique, il fait son job. Et il est au contact de la meute, et il a eu aucune attaque.
Le petit chaperon rouge trottinait dans les grands bois, quand soudain une ombre bouge, c'est un loup, un gros loup à l'œil sournois, qui se dit en voyant la gamine, j'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid.
On est assez loin de ce que j'ai pu voir hier en venant vous rejoindre, donc à bicyclette. Je suis passé par le col du Noyer qui est juste derrière. Et là, vous avez les inscriptions. Donc, c'est à mort le loup et les écolos. Après, c'est rayé et c'était à mort toi-même, bâtard. Bon, ok. Donc, là, évidemment, on comprend le côté extrêmement chaud qu'il peut y avoir quand on est éleveur. On n'a pas du tout envie de voir ces bêtes qui sont enlevées et puis le reste du troupeau qui est stressé. Bon, je crois qu'on voit à peu près bien les limites des battues, qui sont ces battues administratives, sont là surtout pour calmer les esprits. Donc le politique fait son boulot et puis on se dit bah on va faire baisser la pression. Mais en fait, c'est plutôt les bergers qui gèrent eux-mêmes cette histoire et qui doivent réapprendre aux loups à avoir peur de l'homme.
Je dis toujours que quand évidemment, ça c'est la phrase que j'ai toujours dans la tête, c'est on essaie de connaître le loup et on en apprend sur l'homme. Parce qu'en fait, on se rend compte de tous les biais et de tous les excès et de tous les délires de l'homme et de toutes les rumeurs. Donc, le problème, évidemment, des éleveurs est un problème plus que réel. Donc le problème, c'est qu'on a des politiques d'un côté qui se réfugient derrière des promesses et avec des quotas souvent inatteignables, et même s'ils sont atteints, des quotas de loups tués qui n'apportent absolument aucune solution au problème. Parce qu'en fait, les loups qu'il faut tirer, c'est les loups qui attaquent. Si vous dites on va tuer 28 loups, 36 loups, 42 loups et qu'il y en a 28 qui n'ont jamais vu une brebis, et je vous promets que ça peut être le cas, ça n'amène strictement rien si vous tuez des loups qui n'attaquent pas les troupeaux. Il faut que les bergers puissent se défendre de façon très radicale et très spontanée et très rapide. Il faut pas que le loup ait l'occasion de revenir 4 fois au troupeau avant de se dire, tiens, il y a un qui tire en l'air ou qui fait boubou, il faut que tu t'en ailles. Donc il faut que le loup réapprenne le danger de s'approcher d'un troupeau. Et ça, c'est évidemment au berger de s'en occuper.
Et en plus, les loups sont sûrement même très ingrats parce qu'on n'est même pas certain qu'ils votent vert aux élections.
Voilà, c'est même pas sûr. Donc là, il faut raison garder, il faut du bon sens et il faut que les loups comprennent qu'il est dangereux de s'approcher des troupeaux.
Je ne sais pas ce qu'ils ont appris de vous, Jean-Michel Bertrand, ces loups, mais vous avez quand même appris 2-3 choses.
Moi, j'apprends. Quand je suis avec eux, j'ai l'impression d'être complètement vivant, quoi. C'est-à-dire que c'est comme un rêve de gosse. Si on m'avait dit il y a 20 ans que j'aurais l'occasion de côtoyer comme ça une meute, ici, dans mes montagnes à moi, ça aurait été... j'aurais même pas osé y croire. Et voir, justement, moi, ce qui me touche beaucoup sur ce site de rendez-vous, c'est me rendre compte la naïveté de ces animaux et tout ce que ça peut représenter, et la distance par rapport à nous, à la rumeur. C'est-à-dire à tout ce qui se dit sur cet animal. Quand on voit les louveteaux, là, qui s'amusent, qui jouent, qui se courent après, qui ritualisent, etc., et qui sont à mille lieues de s'imaginer tout ce qu'ils peuvent provoquer chez nous, je trouve que c'est un pied de nez incroyable. Et puis avoir encore un pied dans la nature sauvage, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, c'est un privilège énorme, énorme aujourd'hui.
Alors, on va vous offrir ce petit bout de silence.
c'est du silence habité, avec des loups, bien sûr, qui nous ont repérés. Vous avez peut-être quelques étoiles qui s'expriment, là aussi, je sais pas, peut-être un petit murmure d'étoiles, quelques grillons, notre ruisseau. Et donc, bah, juste le bien-être, être là, un être humain à sa place, pas envahissant, juste là, voilà, dans le spectacle de la nature.
Voilà, et ça, je dis, c'est juste ça, c'est juste se sentir vivant.
Bien, nous l'étions avec Jean-Michel Bertrand, donc cinéaste, c'était donc fin août dernier, je l'avais gardé, je me suis dit, tiens, au moment où il va faire un peu froid, on va pouvoir sortir ce sujet, puis en plus il y avait l'actualité, bon bah c'est comme ça. Alors moi je vous convie d'aller sur le site franceinter.fr, CO2 mon amour, vous en avez l'habitude, bon vous déposez ça, vous, comme là aussi régulièrement vos messages, donc ne vous gênez pas, et puis vous avez donc un lien très intéressant, vous allez pouvoir voir les images de loups de Jean-Michel Bertrand, et c'est un film en fait qui sortira à l'hiver prochain, au mois de décembre donc 2016, et qui sortira donc vraiment avec, ce sera solide, hein, c'est un très gros distributeur qui est derrière et qui a complètement craqué sur les images de Jean-Michel Bertrand, donc ce sera un très joli film. Nous passons maintenant à un autre sujet.
Découverte. La science en mouvement.
Et oui, donc dans ce magazine, on va s'intéresser à un garçon qui s'appelle Sylvain Delzon. Alors déjà Sylvain, Sylvie, Sylvia, Sylvain, eh ben il y a de la Sylve, eh ben il y a de la forêt, et il y a de l'arbre. Et alors Sylvain Delzon, vous êtes directeur de recherche à l'INRA de Bordeaux. Merci à nos amis de France Bleu Gironde qui vous accueillent. Et vous travaillez donc sur l'écophysiologie évolutive des plantes. Bonjour à vous, et vous êtes aussi d'ailleurs originaire du Lot-et-Garonne, donc pas très loin. Et votre travail consiste en quoi?
Bonjour Denis. Oui, alors justement, il y a de plus en plus d'événements de sécheresse extrême qui ont été recensés au cours des 10 dernières années. Et notre travail ici à l'INRA de Bordeaux, c'est d'essayer de caractériser un petit peu ces impacts sur les arbres et la forêt, et puis de comprendre les mécanismes sous-jacents à l'adaptation à la sécheresse ou les mécanismes sous-jacents à la mortalité des arbres lors de sécheresse.
Lorsque l'on est dans un pays tempéré comme le nôtre, comment s'adaptent nos arbres? Est-ce qu'ils tiennent véritablement le coup? Parce que en novembre 2012, vous avez co-signé dans Nature un article qui estimait que 70% des arbres de la planète n'ont pas de marge de manœuvre pour résister à d'importantes sécheresses.
Oui, exactement. Nous avions recensé la résistance à la sécheresse d'à peu près 650 espèces à travers le monde. Donc tous les écosystèmes étaient représentés à l'échelle de la planète. Et nous avions constaté que les espèces étaient relativement bien adaptées à leur climat et que toute déviation par rapport à cette normale, c'est-à-dire un petit peu moins de précipitations, un petit peu plus de sécheresse, une sécheresse plus intense ou plus longue, allait conduire ces espèces à subir de ce qu'on appelle le mécanisme de cavitation et qui peut conduire à la mort de l'individu.
Alors aujourd'hui, en ce qui concerne la France, on voit par exemple le hêtre qui est en train de remonter, comme on dit, on voit le chêne vert aussi qui remonte, racontez-nous.
Le chêne vert, lui, est en limite nord de son aire de répartition, dans le sud de la France, c'est-à-dire que ce sont les populations les plus nordiques. Et lui, il est en train de coloniser. Donc on a montré dans une étude en 2013, et on a constaté que le chêne vert était en phase de colonisation depuis les années 1920-25 à peu près, et que cette colonisation vers le nord s'est accélérée dans les années 60-70-80. Et actuellement, c'est une espèce qui domine le littoral atlantique, alors qu'elle était quasiment absente il y a un siècle. Pour le hêtre, c'est un petit peu le message opposé, puisque au sud de la France,
c'est sa limite.
C'est sa limite sud, ouais, d'air de répartition. On en trouve un petit peu des populations en Espagne, mais en altitude. Mais en plaine, c'est vraiment le sud de la France où on trouve les populations les plus au sud. Et donc ici, cette espèce, on a constaté qu'elle était en train de remonter en altitude, et que les populations de basse altitude dans les Pyrénées avaient déjà subi un déclin de croissance au cours des 4 dernières décennies.
À Alors, il y a une invention qui s'appelle le cavitron. Ça, c'était une invention de Hervé Cochard. Et alors, c'est une machine qui est tout à fait intéressante et qui permet quoi? De mesurer, alors moi je résume ça comme ça, mais un peu le stress hydrique d'un arbre?
Le cavitron permet de mesurer la résistance à la sécheresse d'un segment de branche ou d'une branche, d'une racine, ce que l'on veut. Et donc en centrifugeant celle-ci, ça permet de nous donner à quelle pression, donc à quel niveau de sécheresse la branche va s'emboliser, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que comme une embolie pulmonaire, c'est une embolie au niveau de l'appareil vasculaire des plantes, au niveau du xylème. Plus il y a de bulles d'air, plus il y a
de risque d'embolie.
Donc dans le système, voilà, et moins la plante peut transporter l'eau et ça peut conduire à la mort. Et donc on caractérise la résistance de chaque espèce.
Alors donc l'idée, c'est quand même derrière de voir l'adaptation de ces arbres et puis de se dire que il y a peut-être des arbres, il va falloir un peu les abandonner, planter d'autres arbres.
Pour le moment, on ne fait pas de préconisation pour changer d'espèce. Par contre, en forêt de plantation, on s'intéresse à d'autres types de provenance. Donc, je prends un exemple, le pin maritime dans le sud de la France. Donc, c'est la forêt de conifères la plus grande d'Europe, 1 million d'hectares à peu près. Et donc, on s'intéresse à des provenances qui viennent du sud de l'Espagne, du Maroc ou de la Corse, pour savoir si elles sont plus résistantes à la sécheresse, afin de les introduire dans le massif landais. On conserve toujours les populations naturelles locales également. Donc c'est pas un changement d'espèce, c'est pas non plus un changement de population au sein de l'espèce, c'est juste rajouter des populations.
Sylvain Delzon, vous prenez, vous, la tension des arbres, en quelque sorte. Quels sont les arbres les plus résistants, là je parle peut-être mondialement, et puis aussi les plus faibles par rapport à ces problèmes de réchauffement?
On a un panel avec des espèces extrêmement vulnérables. Les plus vulnérables sont celles qui vivent d'ailleurs sur une petite île qui a un hotspot de biodiversité de conifères, qui est la Nouvelle-Calédonie, donc c'est une île française. Mmh. Où il y a 44 espèces de conifères sur ce petit point qui se trouve au milieu du Pacifique, donc beaucoup plus que dans toute l'Europe par exemple. Et puis de l'autre côté du spectre, on a des espèces extrêmement résistantes à la cavitation, qui elles se trouvent un petit peu partout dans les déserts, mais la plus résistante, la championne du monde qu'on a détectée l'année dernière, c'est un cyprès qui se trouve en Australie, qui vit dans le désert, pas très loin de Perth.
Il en plus au bois, et les haies sont coupées, car ici on pense qu'à la rentabilité. Oui, et assez
rentrer dans la danse, voyez comme on danse, sauter, danser, tronçonner qui vous voudrez.
Sylvain Delzon, vous êtes à la fois donc un scientifique et puis aussi vous aimez la nature depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'étude de ces arbres?
Ce qui me passionne, c'est que les arbres, par exemple, pourquoi un arbre ne dépasse pas 120 mètres de haut? Ce sont des contraintes hydrauliques, des contraintes physiques, parce qu'il n'arrive pas à amener l'eau jusqu'aux feuilles du haut de la couronne. Pourquoi un arbre meurt? C'est également des questions qui me passionnent, puisqu'un arbre peut avoir une croissance infinie, peut remplacer ses feuilles tous les ans, peut remplacer ses branches avec du xylème qu'il met en place tous les ans. Donc, il n'y a pas de sénescence programmée chez les arbres, comme il pourrait y avoir chez l'homme, par exemple, ou les animaux. Si ce n'est à l'échelle foliaire, mais il n'y a pas d'apoptose au niveau de l'individu arbre. Et donc, pourquoi un arbre meurt, c'est encore des questions.
C'est le suicide des cellules, l'apoptose.
C'est ça, exactement, oui. Et donc, chez les arbres, on pourrait avoir des arbres qui vivent jusqu'à l'infini.
Oui.
Donc, on n'a pas répondu à cette question à l'heure actuelle, donc c'est ça qui me passionne.
Et voilà. Donc, alors, on sait que les arbres ne montent pas au ciel, comme on dit, mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Un petit coup de cœur, votre arbre préféré?
Oh ben chez moi c'est le chêne,
sans hésiter.
Il n'y a pas de problème, c'est sans hésiter le chêne Cécile, qui est l'espèce qui pousse un petit peu partout sur tous les plateaux calcaires autour de chez moi.
D'où le mot de Quercy d'ailleurs aussi, qui n'est pas si loin que ça de chez vous.
C'est les portes du Quercy chez moi, oui.
Voilà, donc c'est très beau ce coin du Lot-et-Garonne, c'est vraiment super. Merci à vous Sylvain Delzon, je le rappelle, directeur de recherche à l'INRA Bordeaux, écophysiologie évolutive des plantes. Il nous reste encore un petit sujet, détox, vous allez comprendre, avec le docteur Laurent Chevalier, et c'est dans l'actualité sur France Inter, juste après cette chanson.
«
CO2 Mon Amour avec Denis Chessoux sur France Inter.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand.
Eh oui, il y a beaucoup de personnes qui sont bien quand même sur cette terre, absolument. Merci Enzo. Détox, qu'est-ce que ça vous dit? Eh ben écoutez, cette semaine à l'Assemblée nationale, donc un député vert de l'Hérault, Jean-Luc Roumégas, a présenté un projet, donc ce projet de loi, donc détox. Alors déjà, revenons un petit peu en arrière, en 2007, au terme de 4 années de féroces batailles entre les ONG et les industriels, REACH est l'acronyme en anglais de Enregistrement, Évaluation et Autorisation des substances chimiques, chouette, prévoyait d'ici 2018 l'enregistrement progressif de 30 000 substances fabriquées ou importées dans l'Union européenne. Avant, on s'en foutait merveilleusement. Bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu de casse quand même, mais notre grande Cyril est urgent d'attendre, donc il est aussi urgent de faire quelques piqûres de rappel. Eh ben, cette loi est tout à fait positive, et donc on va en parler avec vous, cher Laurent Chevalier. Bonjour à vous, Laurent, vous êtes docteur, vous intervenez dans cette émission, et d'ailleurs, je tiens à préciser que vous venez de sortir le guide. Enfin, vous allez sortir le guide antitoxique de la grossesse. Actualité, cette loi détox.
Bonjour Denis. Alors, il faut effectivement savoir que sur les plus de 100 000 substances chimiques qui nous entourent, on n'en a que 31 qui ont été correctement étudiées. Plus de 1000 qui sont préoccupantes. Et donc, cette loi est vraiment la bienvenue. Tout d'abord, il y a un plan national pour trouver des substituts aux substances chimiques préoccupantes. Le deuxième point, c'est de bien identifier, en tout cas le plus possible, recenser ces substances chimiques. Et puis, deux autres aspects sont à mettre en valeur. D'une part, que le ministère de l'écologie pourra donner des labels pour les entreprises vertueuses. Et enfin, eh bien, il faut une mobilisation de l'ensemble des agences d'État pour aider sur le plan scientifique, financier et technique. Ce que je veux dire, c'est que cette loi, c'est quelque chose qui est extrêmement positif dans la démocratie française. Pourquoi ? On a démarré sur une préoccupation d'un certain nombre de citoyens, des lanceurs d'alerte.
Justement, rappelons que là aussi, ça vient, entre guillemets, vers le bas.
C'est-à-dire absolument. C'est ça. Mais ça vient absolument vers le bas. Et donc, c'est à partir de là que nous nous sommes mobilisés, quelques médecins, des scientifiques, pour donner un substrat, justement, scientifique. Ensuite, ça passe aux politiques. Les politiques donc votent une loi en première instance, et maintenant, ça sera au pouvoir public à mettre tout ça en musique. Donc, on voit quelque chose d'extrêmement positif et qui vient de se passer, et je crois qu'il faut encourager ça. La seule, disons, bémol que l'on a, c'est quand même, on est extrêmement déçus que ce soit pas l'ensemble des députés qui aient voté cette loi. C'est-à-dire que pour des raisons politiciennes, il y en a certains qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. Donc ça, c'est tout à fait dommage parce que c'est pour le bien commun. Donc là, on voit comment un mouvement
on
citoyen...
On est plus malheureusement que dans le bien commun. C'est-à-dire qu'on n'est pas des enfants de cœur les uns et les autres. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui sont, c'est pas un gros mot, mais sous l'emprise donc de lobby. Si vous avez effectivement telle entreprise, on va dire pharmaceutique ou bien chimique sur votre territoire, votre circonscription, bah vous avez aussi intérêt à la favoriser et à l'écouter, donc à retarder un peu les choses.
Bien sûr. Non mais là, c'est pas terminé, puisque disons que des lobbies vont s'activer pour essayer de détricoter tout ça. Donc il faut pas effectivement se leurrer. Mais ce que je veux dire, c'est que la démarche est extrêmement positive. Il s'agit pas non plus d'être au sommet, mais il faut écouter la base, et que c'est la base qui finalement arrive plus facilement à faire changer un petit peu les choses. Et d'autre part, par rapport à cette loi, par rapport à la mobilisation qu'on peut avoir, eh bien il va rester ce pouvoir extrêmement puissant chez le consommateur, qui est le choix.
Oui.
Et donc on les guide pour ses choix, et cette loi va aider à guider, et en tout cas va sensibiliser encore plus nos citoyens.
Laurent Chevalier, lorsque l'on constate les dégâts, comment ça se traduit ? Parce que c'est vrai que l'épidémiologie, quand même, qui a été une science un peu en recul, on va dire, en France, on l'a jamais mise en avant, c'est ça que je veux dire, maintenant commence à être assez formelle. Alors, il s'agit pas d'affoler les populations, mais on voit quand même une augmentation, par exemple, des cancers chez les enfants que l'on n'avait pas avant. On va vous dire, tout ceci est multifactoriel, chaque individu, de toute façon, va réagir différemment face à différentes molécules, on connaît ce refrain depuis très très longtemps, mais quand même, c'est aussi pour ça que les gens ont bougé et que santé et environnement, maintenant, ont un véritable sens.
Je crois que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a sous-estimé de façon extrêmement importante les facteurs environnementaux dans l'apparition d'un grand nombre de maladies, notamment effectivement, comme vous le dites tout à fait justement, les cancers, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Il ne faut pas quand même sous-estimer aussi le fait qu'il y a... Là aussi, des négationnistes par rapport à ça. Et encore, il n'y a pas si longtemps, on sort une étude, une pseudo-étude d'une certaine manière, qui nous dit 60% des cancers sont dus au hasard. Mais c'est quoi le hasard ? Je veux dire, ils ne considèrent pas les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux sont tout à fait aujourd'hui essentiels. On sait que la part du génétique, c'est à peu près 5%. Et tout le reste, eh bien, c'est justement tous ces facteurs qui vont pouvoir entrer en jeu, l'exposition à un certain nombre de substances et l'exposition dès la période fœtale.
Voilà, il y a encore un petit peu de boulot, on le voit bien, l'écart entre la population, les demandes santé et environnementale, et puis nos élus, mais en tout cas se prononcent ce qui est positif. Merci à vous Laurent Chevalier, on vous retrouvera d'ici quelques semaines, enfin on va trouver. Merci à Hélène Langlois et Alain Gadan à la technique aujourd'hui, à Claire Destacan, à Albert Houck, à Xavier Pestugia qui réalisait l'émission, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2, donc allez-y, hein, vous allez retrouver donc les images de loups. Puis tenez, puisque je suis dans les loups, aux éditions du Crayon Vert, vous avez un garçon qui est plein de talent, qui s'appelle Serge Montfort, qui vous offre pour les 7-8 ans les aventures de Tout-Poil. Tout-Poil, c'est un chien, et son dernier album, c'est De mémoire de loup, et c'est très bien fait. On se retrouve la semaine prochaine, le podcast, vous en avez l'habitude. Là, tu es mon petit loup, demain, 19h54, après les petits bateaux. Je vous souhaite un excellent week-end.